Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Nagui fait encore des ajustements pour tenter de réanimer The Artist. Le magazine L'Express se diversifie. Hugo Clément nous raconte son enquête sur la guerre de l'eau. Et puis Twitter se met au Bitcoin.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le lancement de la série Fugueuse sur TF1. C'est un lancement correct. 3 910 000 téléspectateurs devant le premier épisode. 17,6% de part d'audience. Pour vous donner une idée, par exemple, la série qui l'avait précédé, Mensonge, c'était un lancement à plus de 5,5 millions. Donc voilà, c'est plutôt correct, mais peut-être un peu décevant. En même temps, le thème était audacieux puisque pour TF1, puisque c'était sur la prostitution des mineurs. Deuxième, la série 911 sur M6, 2 110 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 10,1% de part d'audience, dans sa moyenne à peu près, un petit peu en dessous. Troisième, France 3 avec Un jour un destin, un inédit consacré à Jean-Jacques Goldman, 1 770 000 téléspectateurs, 8,3% de part d'audience. C'est à peu près ce qu'avait fait Un jour un destin la dernière fois que ça avait été diffusé en prime en 2020. Et puis, je vous donne le mauvais score de France 2, Élysée 2022. Donc, c'était l'émission politique qui recevait Valérie Pécresse. 1 050 000 téléspectateurs seulement, 5,1% de part d'audience. Très mauvais score donc pour France 2, qui est battu par Camping 3, le film sur TMC. 1 150 000 téléspectateurs hier soir.
Culture Média. Et je précise que vous ne donnez pas l'audience débat Zemmour-Mélenchon, car cette audience n'est pas encore tombée.
Ils peuvent avoir fait plus, on verra ça lundi.
Alors, à la une de votre journal des médias, Louise, un nouveau jury pour The Artist.
The Artist, c'est l'émission créée, produite, présentée par Nagui le samedi soir sur France 2. Émission qui ne marche pas du tout. On vous en a déjà parlé plusieurs fois dans ce journal. Moins d'un million de téléspectateurs samedi dernier, par exemple. Alors, l'animateur continue les ajustements, dont un de taille. Le jury, demain soir, excite Élodie Mermoz et Emmanuel Viro qui se contenteront désormais de conseiller les candidats sur leurs prestations. Le jury maintenant sera composé de grands noms de la chanson française, Pascal Obispo, Gaëtan Roussel et Benabar, trois auteurs, compositeurs, interprètes, ce qui est parfaitement cohérent avec l'émission qui entend justement révéler des artistes avec ses profils complets. Ils chanteront avec les candidats sur scène, les Black Eyed Peas également.
Dès samedi soir, les artistes prennent possession et soutiennent The Artist. C'est à 20h40 sur France 2. Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Benabar, Black Eyed Peas et vous.
Nagui sur son compte Instagram qui ne lâche rien, dit-il.
Alors on verra avec les audiences lundi matin si ces changements ont porté leurs fruits. Lui aussi aimerait toucher davantage de public. C'est le magazine L'Express qui veut se diversifier.
Se diversifier pour tenter donc de séduire davantage d'abonnés et repasser les comptes dans le vert. Avec son podcast quotidien d'actualité, La Loupe, lancé juste avant l'été. Ses deux newsletters également envoyés chaque jour. Et le patron du magazine, Alain Veil, vient d'annoncer hier une nouveauté. Le lancement de masterclass vidéo en 2022. Des formats longs où des personnalités inspirantes viendront raconter leur parcours, hommes, femmes d'affaires ou politiques par exemple. Un premier pas vers l'image et la télé, dit-il. D'ailleurs, lors de la conférence de presse, Alain Veil a confié ne pas s'interdire de regarder les chaînes qui pourraient être vendues dans le cadre du rapprochement M6-TF1. Les deux groupes vont en effet devoir vendre certaines de leurs chaînes s'ils veulent fusionner.
Hugo Clément fait sa rentrée sur France 5 dimanche soir avec un nouveau numéro de Sur le front.
Un nouveau documentaire entre reportage et enquête autour de l'environnement. Il y en aura un chaque mois pendant toute la saison. Et pour débuter cette saison, justement, le journaliste s'attaque à la problématique de la sécheresse. Tristement d'actualité après un été marqué par des incendies en Turquie, en Grèce, en Algérie notamment. Mais Hugo Clément a choisi de se concentrer sur la France, car oui, le phénomène nous concerne aussi.
La sécheresse, ça a un impact quotidien, concret sur la vie des habitants, par exemple, qu'on a rencontrés dans l'Aude et qui ont plus d'eau au robinet. Ça a un impact concret sur la vie des gens qui ont perdu leur maison dans le Var parce qu'il y a eu des méga-feux qui ont été attisés, renforcés par cette sécheresse. Ça a un impact concret sur les habitants qu'on est allé rencontrer en Vendée et qui voient leur maison se fissurer de plus en plus à cause de la sécheresse et du sol argileux qui se rétracte. Donc c'est en train de rentrer dans le quotidien de milliers, de centaines de milliers de Français et prochainement, malheureusement, de millions de Français. Donc c'était très important et très urgent pour nous de mettre la lumière sur ce problème, de révéler des informations qui sont peu connues du grand public et puis aussi de montrer qu'il peut y avoir des solutions.
Et des solutions, il en faut, parce que ce problème de manque d'eau provoque des conflits en France. Conflits entre agriculteurs, notamment sur la question des bassines agricoles. Par exemple, ce sont de grands bacs construits pour irriguer les cultures gourmandes en eau, accusés d'aggraver justement cette sécheresse, tout comme les canons anti-grêle, dont on découvre peut-être l'existence, c'était mon cas, qui sont censés protéger les cultures. Et c'est pour ça qu'Hugo Clément a nommé cette émission « La guerre de l'eau en France ».
Il y a une multiplication des conflits et malheureusement, j'ai envie de dire, on n'est qu'au début de ces conflits-là, parce que plus la ressource en eau va être perturbée, c'est-à-dire soit trop, soit pas assez, plus il va y avoir de conflits autour de cette question de l'eau. Et ces conflits touchent et vont toucher de plus en plus la France. Alors évidemment, c'est pas au niveau de ce qu'est la guerre de l'eau dans d'autres pays déjà aujourd'hui, notamment des pays où l'eau est encore plus rare que chez nous et où évidemment on a jusqu'à des conflits armés autour de cette ressource de l'eau. On n'en est pas encore là en France, mais on commence à assister à des prémices de guerre, des prémices de conflits autour de l'usage de l'eau et de la manière de préserver la ressource.
Voilà, nouveau documentaire sur le front diffusé dimanche soir à 20h55 sur France 5.
Et une nouveauté, vous pouvez désormais donner des pourboires sur Twitter.
Oui, des pourboires à vos comptes préférés. C'est une nouvelle option que propose le réseau social dès aujourd'hui dans le monde entier, sur iPhone uniquement. Des pourboires non pas via des paiements en carte bancaire, mais en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin. Twitter continue ainsi de déployer sa nouvelle stratégie, développer des espaces payants. Le réseau social avait déjà lancé une option d'abonnement payant à certains comptes aux États-Unis uniquement. Avec cette stratégie du payant, Twitter veut fidéliser en fait les créateurs de contenu et leurs fans, évidemment, prêts à payer.
Voilà, mais il faut un iPhone, être aux États-Unis et payer en Bitcoin.
Non, alors le Bitcoin, ce sera même en France, c'est dans le monde, c'est les abonnements payants à certains comptes qui est pour l'instant uniquement réservé aux États-Unis.
Merci beaucoup, Louise Bernard.
Mais si vous voulez m'envoyer des Bitcoins, n'hésitez pas, j'ai un compte Twitter.
Moi aussi, j'ai un compte Twitter, je veux pas de Bitcoin. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi, Louise, pour les audiences de l'émission de Nagui, du débat Zemmour-Mélenchon et pour un nouveau journal des médias.
Ah ouais, il y en aura des choses à dire. À lundi.